réussite éducative sur RCN, animé par le clown Chamallow et David Richard.
Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs. Et oui, c'est la reprise. On est trop contents, on est tellement heureux de revenir après cette petite pause estivale qui, j'espère, a été très positive pour vous tous. J'essaie de meubler un petit peu, vous savez, chers auditeurs, sur ce beau jingle de la réussite éducative qui va nous accompagner encore toute une saison. J'essaie de meubler le temps que notre DRE national essaie de trouver un endroit où il a un casque et un micro qui marche. Mais ça ne me dérange pas parce que j'aime bien tenir le crachoir, comme on dit dans le métier. Aujourd'hui, puisqu'on voulait faire une émission de rentrée pour les deux émissions, puisque vous allez retrouver les deux émissions en alternance plus ou moins logique, hein, suivant nos fantaisies, nos emplois du temps respectifs, plus ou moins logique comme alternance. L'année dernière, on a bien respecté l'alternance. Hein, c'était pas trop mal. C'était pas mal. Je crois que c'était la meilleure année au niveau de l'alternance et puis de notre assiduité. Cette année, donc, vous allez encore une fois, chers auditeurs, découvrir à 17h les mercredis soit une vie associative, soit une réussite éducative. Et normalement, très souvent, deux d'affilée. On vient de faire un planning, des fois non. Mais en tout cas, l'alternance devrait être à peu près respectée. Il y aura un équilibre parfait. Et ça, c'est génial. Aujourd'hui, c'est une émission très bizarre parce qu'on voulait absolument faire la rentrée des deux. Du coup, de 17h à 17h30, réussite éducative, ça va David ?
Ça va très bien.
Et à 17h30, monsieur nous quittera rapidement, pour une histoire de parmesan, entre autres. Voilà, je t'ai dénoncé. Et à 17h30, ça sera vie associative. Et donc vie associative, je le dis tout de suite, on la développera tout à l'heure, on va laisser bien sa demi-heure à David. Mais à 17h30, on passera le jingle de vie associative, toujours en direct avec vous, chers auditeurs, en ce 3 septembre 2025. Je le dis parce qu'il y aura des rediffusions, en donnant la date tout de suite, par rapport aux annonces que l'on va faire. Et à partir de 17h30, et ben là, la vie associative, et je n'en suis pas peu fier, va ouvrir sa saison avec un invité de Marc, mais qui ne s'appelle pas Marc, avec Michel Adam, coordinateur AFM 54. Ça va Michel ?
Ça roule.
Voilà. Et il est venu en avance, voilà. C'est la rentrée des classes aussi, les élèves sont très rigoureux, sérieux. Il est là, il sera avec nous pour la demi-heure de réussite éducative. D'ailleurs, des invités devaient arriver, David, mais ils ne sont pas là. Tu mets déjà la tonalité de l'émission.
Écoute,
là.
Voilà, on la connaît, hein, on sait de qui on parle.
Ouais.
On la réévoquera.
Ouais, révoquera, ouais.
Si jamais elle ne vient pas, quand on t'entendra
parler. Une fidèle de l'émission. Voilà, donc on va commencer par une demi-heure de réussite éducative. Et je meuble encore parce qu'il court. Et donc, la deuxième demi-heure, vie associative avec le Téléthon qui, vous savez, est déjà enclenché. Vous pouvez déjà, il vous le dira tout à l'heure, contacter la coordination pour mettre en place des choses, etc. Il le dira mieux tout à l'heure. La semaine prochaine, je peux vous le dire d'autant plus qu'on enregistre dans une heure l'émission de la semaine prochaine. La semaine prochaine à 17h, ne ratez pas l'émission. Je reviendrai sur le Ventoux que vous avez suivi sur le site de RCN, entre autres. Le Ventoux pour le Téléthon en grande partie. On vous racontera tout ça. On aura Julien sûrement en fin d'émission à 18h la semaine prochaine, enfin à 17h la semaine prochaine, pardon. J'enregistre tout à l'heure, donc je fais des fois des petits lapsus. C'est toujours à 17h l'émission, les mercredis. Hein. Donc il y aura sûrement Julien qui m'avait accompagné dans le Ventoux, qui viendra parler de son expérience. On recevra la présidente de France Victime 54, Anne-Sophie Gabriloff. On aura également en ligne Denis Bétinger, c'est-à-dire le président de Raphaël Lorraine. Donc France Victime 54, Raphaël Lorraine et bien sûr le Téléthon, les trois pour lesquels on a souffert à Malocène, à Bédouin et dans le Ventoux. Tout ça la semaine prochaine et puis tout à l'heure à 17h30. Et David, là, t'es au point ?
Parfait. Ben, on dirait bien.
Allez, on est parti. Donc, réussite éducative.
Ça a des airs, ouais.
Bonne reprise. Merci de repartir une année encore avec moi.
Et bien avec plaisir.
Et avec Jean-Luc à la technique.
Avec
salut.
Jean-Luc, bien entendu.
Du coup, tu voulais nous refaire un petit. Je sais pas.
J'allais presque dire, on peut relancer l'émission de l'année dernière. La même de présentation, parce que les choses n'ont pas énormément changé en niveau de ce qu'on va faire sur la réussite éducative cette année, mais évidemment je vais en reparler bien entendu, puisque c'est intéressant malgré tout de remettre à jour. Mais effectivement, quand il y a des choses qui fonctionnent, on a tendance à se dire ah bah continuons de les faire.
Oui, oui.
Voilà, alors là j'aurais bien voulu faire un petit tour de table qui aurait été rapide puisque j'avais une invitée. Donc ah oui. on devait normalement avoir Tess Black, alors elle va sûrement arriver, je pense, je serais pas étonné. Tess Black qu'on a déjà entendu depuis 1, 2, 3, 4 saisons maintenant.
Ça ouais, fait longtemps hein. Mais c'est sympa parce que on sait qu'un de tes angles en réussite éducative, c'est voilà la jeunesse, l'implication de la jeunesse, etc. Les objectifs artistiques, mm-hmm. tout. Et je trouve qu'elle est très représentative parce qu'on l'a vu effectivement grandir, mm-hmm. mais on l'a vu aussi évoluer dans son rapport à l'art, à différents domaines qu'elle approche, parce qu'en plus elle est très éclectique.
Ce qui est rigolo, c'est que ça fait tellement d'années maintenant qu'elle vient, qu'on la voit grandir au micro, derrière le micro, on voit ses centres d'intérêt évoluer, ses réflexions sur ce qui l'entoure évoluer, c'est cool, c'est chouette, c'est très chouette. Et c'est un petit peu ça le principe, en tout cas sur Maxéville, donc sur le programme de réussite éducative de Maxéville, c'est un des axes principaux, c'est-à-dire l'ouverture au monde, l'ouverture culturelle, l'ouverture artistique, et puis tout le fond culturel qu'on peut y mettre aussi, c'est-à-dire engranger des habitudes et des connaissances et des réflexes visuels par rapport à des œuvres d'art, des choses comme ça, mais sur le long terme et d'une manière, j'allais dire, quotidienne, enfin que ça fasse partie du quotidien, c'est un petit peu ça l'idée. Alors c'est super ambitieux dit comme ça, voilà, on le fait plus ou moins, ça fonctionne plus ou moins, mais c'est quand même ça qu'on essaie de faire. Et donc cette année, on repart avec, outre le principe de la réussite éducative, c'est-à-dire d'avoir des suivis individuels auprès d'enfants et d'adolescents, donc le créneau c'est 2-18 ans, pour soutenir un épanouissement, en fait c'est vraiment ça, que ce soit scolaire, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine artistique, dans le domaine des projets qu'on a envie de mener, etc. etc. Et puis d'accompagner aussi des parents autour de ça, hein, parce que pour être moi-même parent, en fait, quand on est à l'intérieur, c'est pas toujours évident d'accompagner ces choses-là chez nos enfants. D'ailleurs, des fois, ils nous en parlent même pas. donc voilà. Donc c'est vraiment d'apporter un petit peu tout ça. Après, ça fonctionne effectivement par l'accompagnement individuel et par la relation qu'on crée. Ça fonctionne aussi par des actions précises qu'on met en place, donc en interne au niveau du PRE, donc, parce qu'on disait DRE il y a encore maintenant 2 ans, c'était dispositif, maintenant c'est programme de réussite éducative. Donc à l'intérieur du PRE, on remet en place cette année des ateliers d'art-thérapie avec Maud Louvio qui y travaille, quatrième année maintenant, donc il va travailler toujours en petit groupe, les actions collective entre guillemets que je mène, c'est toujours des très petits groupes, ce qui permet de garder un regard individuel sur chacune et sur chacun.
C'est elle qu'on avait croisé à la clairière ?
Ouais, tout à fait.
Lors d'une
animation, c'est là qu'on a fait connaissance, on a fait sa connaissance ensemble lors d'une animation à la clairière, et depuis on a continué de bosser ensemble. Donc elle fait un travail vachement intéressant auprès des enfants, donc sur l'expression artistique avec plein de modes d'expression différents. L'objectif n'est pas forcément de faire une production artistique, mais d'exprimer des choses à travers tout ça. Et c'est vrai qu'elle me fait des retours vachement intéressants. Et puis elle a des discussions en pratiquant qui sont vachement intéressantes avec les jeunes. Donc moi, c'est très précieux pour moi. On relance, on continue avec la Fondation Solange Bertrand qui est établie à Nancy, Place de la Carrière. Donc il y a une galerie qui a le côté galerie d'art et le côté animation d'atelier. Ils viennent sur le quartier animer des ateliers. Alors là, on est vraiment sur une forme d'initiation à l'histoire de l'art et à la pratique artistique. Donc à travers différentes pratiques artistiques, ils vont travailler sur des œuvres connues. Et reprendre le radeau de la Méduse, reprendre, je sais pas, des eaux de Frida Kahlo, etc. Et s'amuser à les réinterpréter avec différentes techniques, en passant par la sculpture, par la linogravure, par etc., etc. Et puis du coup, ça permet aussi d'ancrer un petit peu ces œuvres-là dans l'imaginaire et puis dans la culture des jeunes qui y participent. Là, on peut avoir des objectifs qui peuvent aller aussi un petit peu plus loin pour certains jeunes. On avait vu une exposition de peinture qui s'était faite, entre autres, ici, dans les locaux d'RCN, d'une jeune qui avait bossé avec la Fondation Solange Bertrand. Et là, cette année, il y a une des jeunes qui va faire les ateliers donc à partir de la rentrée de la Toussaint, pour laquelle on se dit déjà qu'on va sûrement partir sur un projet comme ça. Donc elle va suivre effectivement les ateliers, et en fonction de comment les ateliers se passent pour elle, et en fonction de sa production, on verra si effectivement on l'aiguille sur un projet plus individuel de fabriquer une exposition de A à Z. C'est-à-dire on part de rien, il faut sélectionner les œuvres, il faut choisir comment on va les mettre en valeur, il faut trouver des lieux, parce qu'effectivement on a des endroits confortables entre guillemets comme ici RCN qui est un partenaire très privilégié, mais j'aime bien aussi les obliger à aller présenter leur travail à des endroits qui sont moins évidents, qu'on connaît moins, et c'est un exercice qui est, qui est plutôt pas mal en termes d'expression, de confiance en soi, etc. etc. Le etc. etc. c'est extrêmement pratique pour pas développer. Et puis travailler la communication, comment faire une affiche, voilà, c'est il y a quand même beaucoup d'aspects qui sont très intéressants en termes de valorisation, en tout cas de ce qu'ils savent faire, c'est très très bien. Et je note au passage que le collège La Fontaine à l'Axou, mais en tout cas sur le Champ-le-Bœuf avec lequel je travaille énormément, suit, quand c'est des élèves du collège, je suis toujours de très très près ces parcours là et ça c'est vachement intéressant, c'est à dire qu'ils sont ils suivent ça de près, ils s'intéressent au travail qui est fait, et même quand ça va concerner des élèves qui par ailleurs peuvent être un peu en conflit avec l'établissement, avec lesquels ça peut être vraiment difficile. Ils arrivent à faire la part des choses, et je pense à l'adjointe qui suit, avec laquelle je travaille principalement, puisque c'est celle qui est un peu déléguée, on va dire, à la réussite éducative, en tout cas au lien avec la réussite éducative, donc Madame Cusocrea, elle fait vraiment cette part des choses, et c'est génial en fait pour les jeunes, parce qu'effectivement on va garder on va continuer de se permettre de recadrer les choses dans le contexte scolaire parce que c'est important de le faire. Mais en parallèle, on est capable aussi de dire en parallèle, en dehors du scolaire, ce jeune-là fait ça et c'est du très bon boulot et c'est très chouette et vient nous le montrer et vient exposer dans le collège, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc voilà, on va continuer. Alors, je ne sais pas si on va continuer. On avait initié l'année dernière un atelier de conception de jeux vidéo. Qui avait été super intéressant. Alors malheureusement, l'association est en difficulté, donc je ne sais pas s'ils pourront reprendre cette année. On va voir, je croise les doigts, j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir reprendre. Puis après, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, mais il y a le travail avec des partenaires comme RCN, avec une initiation au journalisme, entre guillemets, mais pas tant que ça, entre guillemets, avec la participation aux émissions, évidemment, réussite éducative, comme celle d'aujourd'hui. Voilà, on va avoir un travail, on a différents dispositifs en place aussi avec le collège, la journée prolongée, l'atelier positif, j'en reparlerai sûrement dans le courant de l'année. Voilà, après, à droite, à gauche, j'ai quelques partenariats aussi. Enfin, il y a des actions un peu récurrentes comme ça qui sont vraiment le cœur des choses. Et puis après, il y a tout ce qui se présente en cours d'année autour. Et on se dit, ah, là, il y a peut-être un truc à faire. Là, il y a peut-être un truc à faire. Et où ponctuellement, bah, je vais proposer à certains jeunes que j'ai en suivi, qui par ailleurs sont dans des actions récurrentes, de participer ponctuellement à des actions précises. Voilà.
Mais c'est génial tout ce que tu développes parce que, en t'écoutant, là, quand tu parlais de place carrière, je connaissais l'atelier d'art enfantin qu'il y avait aussi au Musée des Beaux-Arts à une époque. Mmh. Je sais pas si ça existe toujours, etc. Et toute cette ouverture à l'art, ça me touche d'autant plus, tu le sais, parce que la zone géographique dans laquelle tu sévis, hein, elle me touche beaucoup, mais elle me touche beaucoup aussi parce que c'est une zone où, et je pense qu'il est bon d'y apporter l'art, et pas seulement de manière narrative ou par des images dans les manuels scolaires, etc. Parce que moi qui suis issu de ce quartier-là, et d'une époque en plus où l'art, c'était dans les manuels scolaires, des reproductions, des dessins, mais elle n'avait pas, tu sais, c'est Sartre dans les mots qui dit « la bibliothèque, c'était le monde pris dans un miroir », et il ironise... au seuil de sa vie, comme ça, à la fin de sa vie, en faisant son autobiographie, il ironise un peu sur son enfance petite bourgeoise, où finalement, le monde, il le connaissait qu'à travers les livres, mais il n'avait pas, et il regrettait, contrairement aux autres enfants, de pas avoir été touché le monde, tu vois, de le connaître, de voir, lui, il le lisait simplement. Et je me rends compte que, je me suis souvent rendu compte que dans mon enfance, bah, finalement, les tableaux et tout, c'était dans les manuels scolaires. Mais on n'avait pas à l'époque, le Champ de Bœuf n'allait pas comme ça, ou l'art n'allait pas au Champ de Bœuf, ou nous, on n'y allait pas. Je n'ai jamais au centre-ville. Mais du coup, je trouve que c'est important tout ce que tu mets en place pour que, pour les enfants, un tableau, tu parlais par exemple du roi de la Méduse, etc., ça ne soit pas juste une image dans un manuel scolaire, mais que ce soit un endroit solennel, avec ses codes, un parfum, une odeur, quelque chose qu'on ne peut pas toucher, mais que. Qui existe hein, en trois dimensions, que ce soit un objet. Et ça, je trouve que c'est super important, que ce soit pas... On en parlait aussi pour les vacances, tu sais, des enfants pour qui la mer, c'est juste narratif. Ils n'ont entendu parler ou vu des images, mais etc., ils ne sont pas allés. Je trouve que c'est bien qu'il y ait ce côté de voir que les choses existent, que ce soit pas juste, qu'on leur a pas juste raconté, mais qu'ils ont vu qu'elles existaient vraiment.
Ouais, puis qu'on peut les pratiquer, en fait.
Et les pratiquer,
sur le fait de réinterpréter des œuvres avec différentes techniques, je trouve ça intéressant. Ouais. Alors après, il n'y a pas que mes prestataires qui le font. Alors je dis prestataires parce que techniquement, c'est ce qu'ils sont, mais en vrai, on se connaît depuis longtemps, et moi, je les considère pas comme ça, même si techniquement, c'est ça. Mais ils sont pas les seuls à le faire, mais c'est bien qu'ils le fassent, et c'est bien que ce soit quelque chose qui est généralisé quand même dans beaucoup de lieux de culture. À côté de ça, moi, je reprends toujours cet exemple-là, parce que moi, il est parlant, c'est comment, justement, on fait rentrer ces images-là dans le quotidien. C'est ça que je trouve important, parce que on sait bien qu'un enfant qui a accroché au-dessus de son lit telle représentation, bah, il s'en souviendra, il la gardera en tête. Et on est allé visiter le musée de l'école de Nancy, comme ça, et... Moi, j'aime bien cette idée aussi. Alors, toujours pareil, dans le cadre des émissions ici en particulier, mais pas uniquement, j'aime bien aussi se faire rencontrer des gens ou des univers ou des choses qui se croisent difficilement, on va dire. Créer des carrefours comme ça. Et j'avais une gamine qui était, c'était il y a pas mal d'années maintenant, qui venait du... c'était un pays africain anglophone, mais je ne sais plus lequel. Qui est arrivée dans des conditions extrêmement difficiles en France avec sa mère. Elles étaient toutes les deux très isolées. ouais, dans une situation vraiment, vraiment compliquée. Et elle avait quoi, 5 ans peut-être. On est allé visiter le musée, elle avait adoré ça. Donc avec le médiateur culturel avec lequel je bosse, Christophe Roderman, on avait fait cette sortie. Et elle était revenue avec une carte postale, c'était un tableau d'Émilie Friant, je ne sais plus lequel. Et en fait, elle l'avait trouvé super cool. Elle habitait dans un foyer à l'époque avec sa mère, elles avaient juste une chambre et elle l'avait punaisée au-dessus de son lit. Et c'est un truc tout bête, mais je trouvais que c'était chouette qu'une gamine de 5 ans qui arrive d'un autre pays, qui est peut-être vouée à s'installer, à grandir en France, rien que cette image-là qu'elle ait en tête et que ce soit un truc qu'elle garde dans sa tête, et quand elle voit cette image, elle sait, c'est Émilie Friant, etc. Et j'avais trouvé ça chouette et je trouve que c'est intéressant de mettre, d'essayer de mettre ça dans le quotidien. Ça devient un truc du quotidien. Ouais. Bah oui, Émilie Friant, c'est le quotidien. Voilà, je trouve que c'est un petit peu ça que j'essaie de faire, c'est que qu'on puisse se sentir chez soi dans la représentation artistique.
Bah, tu sais, un jour on en reparlera en antenne, mais j'ai un combat que j'aimerais mener, c'est que tu vois, il y a des établissements, des lycées. Bon, j'y étais il y a pas longtemps, encore dans un quelques heures là, mais je suis toujours surpris qu'il y ait des longs couloirs et qu'on ne pense pas à mettre justement le long des murs des tableaux ou des images d'auteurs, d'écrivains, tu vois. Je pense les tournesols de Van Gogh ou ceci, cela, peu importe. Mais de temps en temps, parce que à force de les côtoyer,
mais c'est ça, oui, exactement. C'est pas l'idée de les aimer, c'est pas l'idée de les admirer, c'est pas l'idée de les révérer, c'est pas l'idée de les présenter académiquement, c'est l'idée que ça fasse partie du paysage. Mmh. Et même si on a passé sa scolarité dans un lycée, dans un collège, ça marche aussi avec un lycée, hein, ça fait quoi? Ça fait 5 ans le lycée, le collège? 5e, 4e, 3e, ça fait 4 ans. même si on a passé 4 ans à passer dans un couloir qu'on n'aimait pas, qu'on n'avait pas envie de voir, etc., les images qui sont là, on les imprime quand même. Et à un moment, même si on n'a pas la référence, on ne sait pas qui a peint ça, on ne sait pas pourquoi, comment, à quelle date, c'est quand même là dans la tête. Et je trouve que c'est important parce que ça vient enrichir malgré tout un imaginaire, un truc. Enfin, voilà, c'est un univers en fait. Et c'est important. Et quand on retombe dessus dans sa vie par la suite, on peut dire ça j'ai déjà vu. Et du coup, ça va quand même provoquer quelque chose. Si on l'a jamais vu, on peut passer à côté sans réagir. C'est un petit peu ça que j'essaye de mettre en place, voilà. Mmh. À une toute petite échelle, je suis lucide aussi sur ça, mais au moins c'est avec ceux avec qui on le fait, c'est fait.
Attends, c'est une petite échelle, mais tu sais...
Mais on est beaucoup à faire le boulot que je fais, c'est ça.
J'ai vu devant une des rues de là où tu sévis, là où j'ai grandi, il y a des petits arbres à livres tout mignons devant des certaines entrées. Et tu sais, on croit que c'est peu de choses, mais on ne sait pas. Peut-être qu'il y en a un. La littérature, on ne sait pas. Et une rencontre, et ça peut des fois emmener loin. Hein. Une passion, un goût, un machin, tu sais.
C'est le goût qu'on retrouve beaucoup. On avait parlé avec plusieurs jeunes qui sont venus ici, chez les CE2, CM1, dans ces eaux-là, je dirais, parce que je ne maîtrise pas exactement le programme, mais la question de la mythologie qui fonctionne très bien. Moi, ça fait 2, 3, 4 ans à peu près là que j'ai beaucoup de jeunes, y compris des jeunes très éloigné de l'école, très en difficulté scolaire, etc., qui adhèrent à fond vraiment sur la mythologie grecque en particulier, qui vont étudier. Et du coup, ça, c'est une porte d'entrée interminable, puisque ça, c'est tellement un fond culturel, la mythologie grecque, sur jusqu'à aujourd'hui, en Occident en particulier, que évidemment, ces gamins-là, à partir de là, on peut aller presque tout traiter, quoi, j'allais dire. c'est tellement vaste.
Oui. Aujourd'hui, j'ai dit à des élèves qu'il fallait marquer sur l'intercalaire de faire un intercalaire méthodologie. Et j'ai une élève qui a levé la main et qui m'a dit « Ah, mais c'est comme les Grecs alors !» J'ai mis du temps à comprendre. J'ai dit « Non, pas mythologie, méthodologie !» Ça m'avait fait sourire.
Parce que même à partir d'une erreur, entre guillemets, on va remettre quelque chose en place, on tire le fil et on remet un truc en place. Il faut vraiment faire feu de tout bois, comme on dit, et exploiter tout ce qui est exploitable. Quoi.
Et puis c'est mignon. Ouais. Mais encore une fois, je pense que ces petites pierres-là, moi je reviens pas sur l'histoire, j'en ai déjà un peu raconté, puis voilà, je garde ça sous le coude. Mais moi, ce qui m'a sauvé, c'est la mort de Gavroche dans Les Misérables, qu'une enseignante avait déposée sur nos tables, et j'étais fasciné. Et du coup, après, je suis parti faire des études que je n'aurais absolument pas faites sans ce texte-là, un seul texte, c'est-à-dire 25 lignes. Et j'écoute parfois j'aime bien écouter quand des artistes racontent comment ils sont arrivés dans leur enfance, etc., qu'est-ce qui leur a donné le goût. J'aime bien écouter ces histoires de vie, ce parcours de vie. Et il m'est arrivé il y a pas longtemps d'entendre un artiste qui disait, c'est juste, il avait entendu une musique en cours de musique. Tu sais, c'est cool à notre époque, on n'aimait pas forcément. Souvent, c'était quoi le truc des animaux, là, je sais plus quoi, Camille Saint-Saëns, tout ça. Je me souviens, on écoutait des petits bouts. Mais mine de rien, il disait que c'était un cours de musique. Touché, et après il avait demandé à ses parents un instrument et de fil en aiguille, donc finalement tu vois, ces arbres à livres, c'est des trucs que tu fais, on croit que c'est peu de choses, mais ça peut emmener loin.
Après, enfin, Moi, j'avais, quand j'étais au ça devait être au lycée, on avait lu un extrait de texte en anglais. Mmh. Bon, c'était un cours d'anglais, j'avais lu. Et ce texte-là m'avait marqué. C'est quand même resté. C'est resté. Et je l'ai lu cet été, en fait. C'était Edith Wharton, Ethan Frome, le bouquin qui date de 1912, qui est une autrice américaine assez classique aux États-Unis. Et je me dis, c'est rigolo, quoi, parce qu'il y a 40 ans, non, 30. Il y a 30-35 ans, j'ai lu un extrait de texte, un petit paragraphe en anglais qui m'a marqué, et aujourd'hui ça m'amène à lire un livre 30 ans plus tard. Enfin, c'est rigolo, quoi, parce que c'est jamais parti, ce texte-là, j'ai toujours gardé en tête, il m'a marqué, il était marquant, quoi. Donc voilà, je me dis que ça, c'est important, ce genre de choses, de mettre des petits trucs comme ça, puis après on n'est pas maître de ce qui va se passer derrière, mais c'est toujours l'image de semer des graines, etc. Enfin voilà, c'est assez bateau, mais c'est pas parce que c'est bateau que c'est pas pertinent, mais que et que ça n'a pas un intérêt. Et effectivement, après, on n'a pas de maîtrise de ça. Ça appartient aux gens à qui on a fait ces propositions. Ils en font quelque chose ou pas. Les hasards de la vie feront qu'ils recroiseront les œuvres ou pas. S'ils les recroisent, ça peut provoquer des choses. Enfin, voilà, on n'est pas devin, mais on peut cultiver l'avenir, entre guillemets. Puis après, effectivement, on ne sait jamais à quoi va ressembler la récolte en début de saison.
C'est très beau parce que tu utilises plusieurs fois le champ lexical et la métaphore de la germination. Et voilà. C'est beau parce que Victor Hugo disait justement, on va le dire ça à tous les profs qui viennent de prendre leurs élèves, là, il n'y a pas de mauvaises herbes, il n'y a que de mauvais cultivateurs. Et c'est joli, quoi, non? ça nous ramène à nos responsabilités.
C'est
aussi.
Ça,
mais du coup, par rapport à ce que tu dis, ça me fait aussi penser, alors là, ça va être un poncif de début d'année, mais relisons tous, je pense que c'est bien de relire aussi la lettre de Camus à M. Germain. Hein, tu sais,
que je n'ai jamais lu moi-même.
Ouais, mais
je vois de quoi tu parles. Je vois
son maître d'école, il rend hommage quand il reçoit le prix Nobel de littérature. Et il dit vraiment merci à M. Germain, c'est grâce à vous. Donc, mine de rien, ces petits cailloux-là.
C'est l'idée de transmission, moi, je trouve, qui est intéressante. Et ça ne concerne pas que moi. C'est-à-dire, c'est les intervenants avec lesquels je travaille, qu'est-ce qu'ils peuvent transmettre. Et puis finalement, comment on favorise la transmission aussi des parents aux enfants. Même sur. Là, je change un peu de registre, mais on l'a déjà vu à travers l'art-thérapie ou à l'époque avec les ateliers photo que j'ai pas remis en route pour l'instant, faute d'intervenants, mais je recherche toujours quelqu'un qui pourrait faire ça. Et entre autres, sur les photos de famille. Donc, un atelier photo de famille. Comment on se présente en tant que famille et comment on se parle en tant que famille et quelle image on veut donner. Et sur ces ateliers-là, c'était intéressant, comme on se rend compte qu'il y a beaucoup de familles ici sur le quartier où, en fait, on parle très peu de l'histoire. On parle très peu de son histoire en tant que parent. On parle très peu de l'histoire de la famille. On parle peu des grands-parents. On parle peu du pays d'origine aussi. Enfin, on en parle assez peu. Et en fait, moi, j'ai souvent des gamins qui sont assez... qui sont pas rattachés à ça, en fait. Et je trouve que c'est un petit peu dommage. Et justement, dans les ateliers photos de famille en particulier, mais ça fonctionne aussi en art-thérapie. Moi, j'essaie de remettre un petit peu qu'est-ce que vous pouvez transmettre en tant que parent, comme point de repère. Et je parle pas de repère éducatif, là. Je parle vraiment de point de repère d'où on vient, qui on est, d'où vient notre famille. Et qu'est-ce qu'on veut en garder, ou qu'est-ce qu'on veut d'ailleurs, comment on veut s'y opposer, hein. Enfin, c'est pareil. Les jeunes vont le faire à leur façon, mais je trouve que c'est important qu'ils aient ça. Et plutôt que d'être dans un espèce de vide comme ça, où ils ont pas de. Ils n'ont pas de point d'ancrage, je trouve que c'est important qu'il y ait ces points d'ancrage. Et ça, j'essaie aussi de le favoriser, mais c'est cette affaire de transmission. Et comme j'évoquais aussi d'ailleurs l'histoire des pays d'origine, je trouve que ça, c'est un avis personnel, mais en fait, ça rentre dans cette idée-là. J'ai aussi pas mal de jeunes qui viennent de l'étranger, qui ne sont pas nés en France, qui parfois sont arrivés depuis peu de temps. Et je trouve que l'idée de la transmission est aussi intéressante, si ce n'est plus intéressante, et là, ça n'engage que moi, que la notion d'intégration, parce que je trouve que c'est plus intéressant de transmettre et de donner quelque chose, en fait, et de dire voilà où tu arrives, voilà le contexte dans lequel tu te trouves, voilà le fond culturel dans lequel tu commences à baigner, voilà, etc., etc. Et j'ai envie de transmettre ces choses-là et de mettre en place des choses. Alors quand je dis j'ai envie, c'est pas moi qui le fais, hein. Enfin, ça peut être moi, mais ça peut être, voilà, effectivement, des intervenants, ou favoriser cette transmission et dire voilà le fond culturel dans lequel tu arrives, puis peut-être aussi voilà celui duquel tu viens. Il ne faut pas l'oublier non plus, c'est important.
Qui a le passé pour racine a pour feuillage l'avenir. Victor Hugo. Non, mais c'est très important parce cette phrase-là, parce que d'où la douleur, soit des déracinés géographiquement, soit qu'on peut considérer déracinés parce qu'ils n'ont pas la connaissance de leurs racines.
Exactement.
Et
exactement,
ça crée des mal-êtres, hein, et des difficultés à aller vers l'avenir, je pense.
La question de savoir qui on est, en fait, c'est vraiment ça. Et c'est difficile de savoir qui on est si on ne sait pas où on arrive et si on ne sait pas d'où on part. Ou qu'on le connaît mal, en tout cas. Je trouve que c'est important. Et puis c'est un sujet. On parle beaucoup aussi de la question de la communication en famille, en fait, entre parents et enfants. Mmh. Et quel meilleur sujet, j'allais dire, quelque part, que cette histoire-là, en fait. Je trouve que c'est un sujet hyper important. Et donc, en abordant la question aussi de l'histoire familiale et de l'identité familiale, etc., bah finalement, on favorise aussi une discussion, un échange entre les parents et les enfants. Et c'est qui peut mener à des sujets, d'ailleurs, radicalement différents. On peut complètement partir dans tous les sens à partir de ça. Et voilà. Et là, je parlais un petit peu, effectivement, de gens qui arrivent en France, mais je le vois aussi sur des familles qui sont établies ici depuis des générations et des générations. Mais des fois, j'ai aussi des gamins qui sont totalement paumés dans leur arbre généalogique, ils ne savent... Ils ont du mal même de différencier un oncle d'un cousin, d'un machin, etc. Et j'aime bien prendre le temps de dire, on remet tout ça sur un papier pour essayer de comprendre qui est où et qui fait quoi. Même de travailler aussi, de se dire, voilà, on va mettre des flèches de différentes couleurs selon le type de relation que tu as avec les gens pour avoir une vue d'ensemble. Et j'en ai eu quelques-uns comme ça pour qui ça a apporté un truc. Alors après, je creuse pas plus loin parce que je suis pas psychologue, je suis pas, etc. C'est pas mon métier, j'ai pas la compétence pour ça. Par contre, du coup, quand il y a un suivi psychologique, c'est intéressant d'échanger avec les personnes qui assurent ce suivi. Mais c'est important ce truc de pouvoir comprendre qui on est, où on est, d'où on vient, et sans même parler d'aspects géographiques, internationaux, simplement dans une famille, à quoi ça ressemble le tableau d'ensemble, quoi.
Ouais, bah c'est très riche. Hein. Du coup, ça nous donne un bon aperçu de tout ce qu'on va faire cette année. Et comme j'ai aucune notion des minutes qui s'égrènent, j'avais une question quand même à te poser liée à ça. En même temps, ce que tu dis, la boucle est bouclée, si on revient à Tess Black, qui est représentative de beaucoup de choses dont tu viens de parler, dans sa richesse de curiosité, d'éveil, etc. Mais comme j'ai aucune idée des minutes et qu'on fait une demi-heure, je me disais, n'oublie pas aussi que tu voulais faire connaître pour une émission de rentrée. Je ne sais pas du tout si on s'approche de la demi-heure, mais connaître aussi la tonalité musicale de ce que sera la réussite éducative. Je ne sais pas, comment. Alors, je sais qu'on a l'habitude de partir.
Exactement, mais justement...
Pour qu'on soit calé sur une demi-heure.
Il nous reste à peu près 5 minutes là, donc je vais effectivement partir sur... Alors, j'ai choisi une pause musicale là qui est bien précise, parce que nous, on est... notre ministre nous a mis, effectivement, et on l'a entendu dans les médias, grande cause nationale, la santé mentale des jeunes. Après, voilà, il y a des choses qui sont mises en place, qui vont se mettre en place dans le temps, il y aura des financements, des trucs, je sais pas encore bien, on verra bien ça.
Il y a un flou artistique en ce moment.
Il y a un flou artistique, oui. Voilà. Mais c'est comme ça quand les choses se mettent en place. Après, effectivement, moi, c'est un vrai sujet. Ça fait quelques années que je sens bien qu'il y a un glissement et que j'ai quand même beaucoup, beaucoup de jeunes qui sont mal, qui se sentent mal. Alors, les questions qu'on évoquait juste avant, pour moi, sont en partie des réponses, mais sont loin d'être toutes les réponses possibles. Mais du coup, j'avais envie d'évoquer un petit peu justement ce mal-être. Donc, du coup, je vais quitter cette émission, car effectivement, je dois y aller. Puis on avait dit effectivement qu'on a la vie associative qui va enchaîner derrière au bout de la demi-heure, mais j'avais envie de mettre un morceau qui pour moi était assez parlant sur ce mal-être un peu existentiel que plein de jeunes connaissent et puis qu'ils ont du mal d'exprimer, sur lequel ils ont du mal de mettre des mots. Et je trouve que la chanson qui va suivre de Félix Radu va nous en parler. Alors je vois que tu fais juste...
Ah non, c'est juste pour avant qu'il le lance, je me permettrai moi de te dire, juste avant qu'il le lance quand même, de te dire merci de repartir pour une saison. De dire qu'on se retrouve dans 2 semaines, ce sera de nouveau, on repart sur la réussite éducative. Voilà, puis dire que je suis content de repartir cette saison avec toi.
Voilà. De même. Voilà, merci beaucoup.
Merci.
J'ai pas tout compris. Est-ce qu'on pourra répéter ce qu'on attend de moi ? Non, j'ai dû être distrait, j'ai rien vu passer. J'ai pas loupé, je sais pas, un signe du ciel ou du destin ? Quelque chose qui disait, c'est par là, t'inquiète, tout va bien. Enfin, vous comprenez. Je dis ce qui me vient, ça peut tout aussi bien ressembler à un dictionnaire ou un panneau publicitaire. Un truc céleste qui brille, quoi. Parce que ça devient urgent, là. J'ai besoin d'air. Et je trouve pas comment ouvrir les fenêtres à l'univers, putain. Me faites pas croire que je suis le seul avec ce truc mélancolique qui grogne sur le palier, qui bouffe dans mon assiette et qui pisse sur les fleurs quand je vais me promener. En plus, je crois que c'est pas le mien. On a dû me le prêter et il est pas à ma taille, j'ai l'air d'un con. Je flotte dedans comme un enfant qui porte le pull de ses darons, c'est pour ça. Je crois qu'on a dû se gourer au service des solitudes. Ils ont cru que j'étais deux, les numéros étaient collés, c'est pas grave. Mais si on pouvait m'indiquer où ça se balance, le mal d'exister qu'on a en trop. Un service client, peut-être même un numéro. Allez, passez-moi le délégué, le responsable, le manager. J'ai 2-3 trucs à lui dire. Y'a combien de cœurs sur répondeur ? Ça fait 3 ans que j'ai pas pleuré. Pourtant je sens que ça tangue dans ma tête. Je crois que mes larmes se sont paumées entre les rêves et les regrets. Ça fait 3 ans que j'ai pas pleuré, mais je les sens tomber en cachette. C'est plus des larmes, c'est de la pluie dans ma tête. De la pluie dans ma tête. De la pluie dans ma tête. Attendez, attendez, comment ça je peux pas faire demi-tour ? Non, j'ai pas reçu l'info, non ? Faut quoi, un visa ? Un vaccin contre la nostalgie pour revenir sur ses pas ? Parce que j'en reviens de là-bas, en fait, c'est là où j'ai grandi. L'avenir, je connais pas, je suis venu ici en touriste pour visiter. Ah, c'est super, bravo. Un peu triste la déco, mais je vous laisse gérer. Comment ça, sortie définitive ? C'est ma vie ou un vigile de fin de soirée? Laissez-moi passer. Vous comprenez pas? J'ai plein de potes de l'autre côté. Un tas de projets que je me suis juré de retrouver quand mon sac serait moins lourd. J'ai des espoirs, même des premiers amours. Laissez-moi les prévenir. Au moins leur dire que je reviendrai pas. Je suis parti comme si j'allais fumer une clope. J'avais pas vu le panneau stop, je vous jure. J'aurais su, j'aurais ralenti l'allure. Je serais resté 5 minutes de plus. J'aurais loupé mon arrêt de bus. J'aurais dit je t'aime plus fort et j'aurais fait plus d'efforts, je sais pas. J'aurais tendu les bras comme mon père le faisait pas. J'aurais pris plus de souvenirs. J'aurais eu moins envie de partir. J'aurais décroché son appel. Quelque part dans le passé, il y a ma grand-mère qui est sans nouvelles. Ça fait 3 ans que j'ai pas pleuré. Pourtant je sens que ça tend dans ma tête. Je crois que mes larmes se sont paumées entre les rêves et les regrets. Ça fait 3 ans que j'ai pas pleuré, mais je les sens tomber en cachette. C'est plus des larmes, c'est de la pluie. De la pluie dans ma tête. De la pluie dans ma tête. De la pluie dans ma tête.
Vie associative sur RCN avec le clown Chamallow.
Bonsoir, bah, c'est rigolo parce que c'est toujours la même émission, hein. Pour ceux qui sont en direct, le 3, puis même en rediffusion d'ailleurs, on a fait moite-moite. Une demi-heure réussite éducative avec David qui vient de se sauver pour son histoire de parmesan et qui vous a présenté la réussite éducative. Et là, c'est vie associative, une demi-heure, avec un invité de marque qui ouvre la saison, Michel Adam, coordinateur de l'AFM. On dit coordinateur 54, bonjour, c'est ça?
Voilà, coordinateur du département 54.
Du département. Hein, oui, mais tu sais que dans mon cœur, t'es le coordinateur de tout. Mondial. Téléthon mondial. Il n'y a pas des élections pour le coordinateur du monde. Merci d'être là, hein, pour la première de l'année. Chers auditeurs, je le sais, certains d'entre vous, c'est bizarre parce que je fais semblant là, au niveau de la tonalité de ma voix, de, comme si on démarrait l'émission, alors qu'elle a déjà une demi-heure, mais beaucoup, je l'ai mis sur Facebook aussi, attendent un petit peu qu'on distille les informations sur le Ventoux. On le fera, de toute façon, on fera toute une émission aussi avec Julien de RCN qui m'avait accompagné à vélo, etc. On fera une émission où on racontera les aventures. Là, je vais distiller quelques informations en discutant avec toi, Michel, puisque la première fois en 2014 que je suis descendu pour le Ventoux, monter le Ventoux avec Daniel, ingénieur à l'AFM au Généthon, oui. Tu m'avais fait l'honneur de descendre depuis Nancy, oui. Avec des amis communes, à Alizée et puis Marion.
Oui, tout à fait, mais c'était mon entrain à l'association.
Ouais, c'était chouette, bah, c'est, ouais. C'est un beau symbole. Hein.
Puis il y avait le directeur aussi, il y avait Bruno.
Il y avait Bruno, oui, exact. Super sympa et tout, ouais. Qui a d'ailleurs a poursuivi, qui est revenu encore les fois d'après, en 2015 et 2016, à vélo, hein, il avait même. Voilà, c'était sympa. Et du coup, ça m'a fait penser à toi, là, le Ventoux. Donc je vais distiller quelques informations, puis on poursuivra dans l'émission de la semaine prochaine que j'enregistre tout à l'heure, chers auditeurs. Il y aura une petite partie Julien aussi qui reviendra. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, chers auditeurs, c'est que ça a fonctionné. Moi, parce que j'étais sous des bonnes étoiles. À la fois celle du Téléthon, celle des France Victimes, celle de Raphaël Lorraine. J'avais un talisman, comme a dit le journaliste de l'article de lundi, le talisman offert par Adèle, que je montrerai tout à l'heure pour la vidéo. Elle m'avait donné un petit papier où elle avait marqué très gentiment, je l'ai sur moi, là, je l'ai ramené. Elle avait marqué Téléthon, Ventoux, voilà ma petite Adèle qui a 9 ans, et je l'avais portée autour du cou. Je voudrais vous dire que ça a réussi, mais juste une remarque, chers auditeurs, il faut vraiment se préparer parce que l'idée de monter 2 fois et de descendre 2 fois sans roue libre, ça a été une folie. Donc c'est vrai que si on a un message avec Julien à lancer, c'est que c'est vrai que quand on se lance dans des défis, il faut se préparer à l'avance. Hein. Monterland disait il ne faut pas faire les choses, mais faire en sorte que les choses se fassent. Et c'est vrai que on avait regardé juste avant, il y avait eu quand même quelques décès entre juin et juillet là sur le Mont Ventoux, soit pour des histoires de vitesse, soit des arrêts cardiaques, etc. Et c'est vrai que le fait de monter 2 fois en deuxième bédouin par bédouin, c'est quand même terrible. Donc vive le Téléthon, mais c'était une belle aventure humaine avec Julien parce que c'était une belle folie, hein. Ça grimpe leur truc, non?
C'est une chamalesque.
Ouais, t'es gentil, mais les genoux vont encore avoir besoin de quelques semaines de récupération, parce que c'est le plus terrible. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui ont mis des petits mots sur Facebook. Michel, oui. Le Téléthon, on peut dire que là, bah, comme l'émission est filmée, on a mis une petite pancarte. Je suis sûr qu'avant la fin de l'émission, avant 18h, je suis sûr que notre ami Jean-Luc, que l'on resalue pour la deuxième fois, nous relancera ce petit jingle qu'on aime tant, toi et moi, du Téléthon. Michel, le Téléthon, puisqu'il y a déjà des accréditations, il y a déjà des choses, on peut déjà te contacter, on peut déjà se lancer.
Voilà, alors le Téléthon, je vais le répéter une nouvelle fois. Le Téléthon, c'est l'émission télévisée qui se déroule le 5 et 6 décembre, c'est-à-dire le premier week-end de décembre. Mmh. Par contre, sur le terrain, le Téléthon, depuis l'année dernière, démarre le 1er juillet. C'est-à-dire qu'à partir du 1er juillet, on peut organiser son animation au profit du Téléthon. Une belle animation où on rencontre toujours solidarité, bonne humeur, etc. Il faut savoir quand même que les animations de terrain, c'est le premier canal de collecte du Téléthon. C'est par là qu'arrive le plus d'argent. Il y en a plus que par le 36-37, que par la carte bancaire, etc.
Donc c'est vraiment les crêpes, les ballons, pour reprendre le titre d'un livre, qui ramène le plus grand pourcentage.
Voilà, tout à fait. On peut changer le monde en vendant des crêpes et des ballons.
Ouais, il faudra vraiment que j'arrive à lire ce livre. Hein. C'est de Monsieur Merlin, c'est ça ?
Et Serge Braun.
Ah non, Serge Braun, je l'ai confondu tout le temps. Ouais, Serge Braun, il faut bien le dire. Ouais,
qui sera d'ailleurs à Villers-les-Nancy le 17 octobre.
Oui, ça j'ai noté, ouais. Je passerai, ouais, ça c'est super.
Et... Ah, une belle musique, là.
Ah ouais, hein, ça ? Ah, moi j'adore, ça, y a...
J'ai toujours la larme à l'œil quand j'entends cette musique.
Ah ouais, non mais moi aussi, hein, ça le fait à chaque fois. Hein. Et juste pour dire que c'est vrai qu'il y a une belle image, hein, et sûrement grâce à des gens comme toi depuis des années, il y a une belle image parce que tu vois, au sommet du Ventoux, 1912 mètres, quand les gens, on leur dit c'est pour le Téléthon, parce qu'ils voient, on a mis les banderoles, les machins, tout de suite, ah c'est pour le Téléthon, ah super, ouais bravo, machin. C'est, je pense que par un long travail, petit à petit, de personnes comme toi et tous les bénévoles et tout, mine de rien, la bataille de l'image est gagnée, je pense, non ?
Oui, tout à fait. Ben, le Téléthon, c'est connu de tout le monde. Ouais. C'est une grosse opération. On a copié sur les Américains, on les a largement dépassés, ce qui n'est pas souvent le cas, donc on peut s'en vanter. On peut être fier de ça.
Oui, oui, bien sûr. Ouais. Et donc là, tu disais, on peut déjà mettre en place des manifestations, mais on peut le dire aux auditeurs, on peut déjà les mettre en place, mais de manière très rigoureuse, il faut te contacter, car rien ne se fait sans... C'est accréditation, on est d'accord.
Voilà, le Téléthon, c'est aussi une image, une bonne image pour les Français et pour tout le monde, parce que ça représente beaucoup d'argent et on tient absolument à ce qu'il y ait des procédures strictes, bien encadrées. On ne fait pas une animation Téléthon sans contrat. On ne veut pas que l'image du Téléthon soit utilisée à gauche, à droite, sur n'importe quoi et n'importe comment. Et bien sûr, on veut aussi avoir une petite idée sur l'argent qui circule.
Ouais, donc c'est pour ça qu'il faut absolument contacter la coordination de l'endroit où on est.
Voilà.
Où on met en place la manifestation.
Voilà, une fois qu'on a une bonne idée, etc., ou avant, pour se renseigner, il faut s'adresser à la coordination départementale qui se situe à Vendeuvre. Je peux vous laisser le numéro de téléphone 03 83 56 99 34. 03 83 56 99 34. Il y a un mail, téléthon54@afm-6-téléthon.fr.
Et il y a déjà des pôles qui sont en place. On peut déjà faire la pub pour un. J'en connais pas d'autres. Si tu en as qui te viennent, n'hésite pas. Mais en tout cas, la choucroute d'Arroué.
Choucroute d'Arroué, le 5 octobre.
5 octobre. Elle m'a dit c'était midi et demi, je crois. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Voilà. Donc j'ai accepté l'animation, chers auditeurs, si vous voulez avoir des ballons, des choses comme ça. Et donc là, elle m'a dit qu'elle ouvrait, que c'était bien qu'on fasse la pub. Par contre, j'ai oublié de lui demander où il fallait appeler. Tu sais, toi,
la mairie d'Arroué.
Mairie d'Arroué, tout ça, on trouve sur Internet. Hein.
Voilà. Mairie d'Arroué. On peut envoyer un mail à mairie, je crois que ça doit être mairie@arroué.fr.
D'accord. Vous trouvez tout ça sur Internet.
Hein. Donc, sinon, on va sur la page Facebook du Téléthon et on le trouvera.
Bah voilà, parfait. Et venez nombreux, là, ça y est, elle m'a dit c'est ouvert, ça commence à être ouvert, là, c'est ouvert depuis peu. Donc, il reste plein de places pour la choucroute Téléthon. Alors, c'est excellent la choucroute et en plus, c'est un très beau geste puisque c'est reversé au Téléthon l'inscription. C'est
intégralement,
ça
oui.
Intégralement. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas, venez nombreux. En plus, c'est sympa parce que nous, on a nos places et tout. Là, on veut qu'il y ait du monde. Hein. Michel, tu y seras.
Oui, bien sûr.
Ouais.
Mais Arroué, c'est une belle histoire. C'est une histoire aussi d'un village qui a démarré il y a quelques années, il y a 3 ans, et par une course du muscle à l'école. Alors, ça, on pourra en reparler un peu tout à l'heure.
Oui.
Une course qui a superbement bien marché, tout. Et j'étais hier avec la nouvelle directrice de l'école. En principe, on va en refaire une cette année. Et même chose pour le reste de la commune. Ils ont commencé par vendre des porte-clés. Et ils se sont dit, mais pourquoi on ne ferait pas autre chose, un peu plus? Et puis voilà, ils ont fait la choucroute. Et maintenant, ça devient la traditionnelle choucroute d'Arroué.
Ah non, c'est chouette. Hein. Ouais. On va parler de la course du muscle. Mathieu, est-ce que tu veux en dire quelques mots maintenant? Parce que ça peut donner envie à des auditeurs. En plus, c'est la rentrée des classes, etc. Comment ça s'enclenche, ça?
Voilà, alors la course du muscle, c'est très simple. C'est, C'est logiquement, au départ, un contrat. Alors, un contrat encore, un de plus. Donc, il y a un contrat entre l'école et la coordination du Téléthon. Mais il y a surtout un contrat entre les élèves et leurs parents, leurs amis, les voisins, les commerçants du coin, etc. Les enfants disent, tiens, je vais faire des tours de la cour de récréation ou des tours du stade. Et tu me donneras, ou tu donneras plutôt au Téléthon, 2 euros, 3 euros, 5 euros par tour. Voilà. Après la fin de la course, on fait les comptes. Donc c'est aussi un peu de calcul. Ça permet de faire du calcul. Et les parents versent ce qu'ils ont convenu. Souvent, ils arrondissent. Pour vous donner un exemple, pour parler d'Arouet par exemple, les comptes, ça donnait à peu près 400 euros pour l'école. Et après, arrondi, ils ont fait 2300 euros.
Ah, c'est un bel arrondi.
Voilà. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les enfants sont très fiers et il y a de quoi. Ce sont eux qui se sont mouillés pour les autres enfants, pour les malades, etc. Et à chaque fois que je passe dans le village, ils me disent « Monsieur Téléthon, on recourt quand ?» etc. Ils ont tous encore ce souvenir extraordinaire. Et beaucoup... On dit, mais c'est pas normal parce qu'on va aller au collège et là-bas, il n'y a pas de course du muscle. Alors, je leur ai dit que c'est aussi possible dans les collèges, dans les lycées, etc. Voilà.
C'est beau, monsieur Téléthon.
Donc, la course du muscle, c'est vraiment l'engagement des enfants.
Ah ouais, non, ça, c'est chouette. Il faut vraiment le développer. Et puis, c'est pas si compliqué que ça, non?
Ah non, il n'y a rien à faire. Il suffit de compter les tours, en gros.
Ah mais tu sais pourquoi je te dis ça, hein? Parce que ce qui peut freiner des fois, c'est ce qu'on entend, ce que j'entends moi quand je le propose, c'est parfois, ah oui, mais ça va être paperasse machin, truc.
Voilà, alors ce qui est important à dire, c'est qu'effectivement, il y a un contrat. Mmh. Un contrat, c'est les coordonnées de l'établissement, etc., savoir quel jour et à quelle heure il se passera quelque chose. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est une animation agréée par le ministère de l'Éducation nationale. Donc j'entends parfois, oui, mais... je ne sais pas si on peut organiser quelque chose au sein de l'école. C'est agréé par le ministère de l'Éducation nationale et ça peut constituer le cross obligatoire dans le premier trimestre de l'école.
Ah oui, ouais, bah oui.
Donc, l'occasion. Voilà.
Donc ça, c'est bien que tu le précises parce que c'est vrai que ça peut freiner aussi. Or, c'est reconnu par l'Éducation nationale.
C'est agréé, il y a un arrêté du ministère de l'Éducation nationale qui agrée cette animation. J'en profite, comme on est dans la course du muscle, pour dire que je voudrais cette année mettre l'accent sur la jeunesse. Donc on était chez les écoliers, etc. Mmh. Mais la jeunesse, c'est aussi les jeunes sapeurs-pompiers. C'est les conseils municipaux de jeunes. Et je voudrais bien que ces associations, ces ensembles se mobilisent un peu. Alors les maires, je leur ai écrit en disant, vous avez un conseil municipal de jeunes, essayez de faire quelque chose avec eux, essayez de leur montrer... Que ce que c'est que la solidarité et de les aider à s'organiser, à mettre en place un projet du début à la fin, etc. Donc il y a un aspect solidaire, mais il y a aussi un aspect préparation à la vie, hein, tout simplement.
Mais tu vois, en écoutant David, le DRE, qui est aussi responsable du conseil d'enfants, dans la zone géographique dont il s'occupe, ça me donnait envie, je lui en reparlerai, parce que je pense qu'il y a des choses à faire.
Il y a peut-être des actions à mener, ouais. Des choses, des croisements à faire, oui, ouais, tout ouais. à fait. Ouais.
Non, parce qu'il faut comme ça. C'est vrai que la jeunesse, en plus, voilà, je pense qu'ils aiment se mobiliser, il faut juste leur en donner l'opportunité, le cadre.
Ils adorent ça, et puis c'est quelque chose de concret, ils savent, ils voient, quand ils regardent l'émission télévisée, ils voient les avancées dans les traitements, etc. Bon, moi j'ai vu cette année le petit Sam, qui a une myopathie du chêne, qui normalement aujourd'hui ne devrait plus marcher, et qui dans quelques années devait être condamné. Il fait partie d'un protocole actuel sur une recherche en cours, et alors que tous les parents étaient morts de fatigue, à 2h du matin, il courait encore dans le gymnase, alors qu'il était censé ne pas pouvoir marcher. C'est quelque chose qui est fou, et d'en parler, c'est la même chose. Les larmes qui viennent, c'est extraordinaire de voir. Moi, je suis rentré au moment où je t'ai rencontré au Ventoux, au Téléthon. À l'époque, l'espérance de vie de la myopathie du chêne, par exemple, c'était de l'ordre de 15 ans. Aujourd'hui, c'est 34 ans. Et là, on vient de recevoir l'autorisation d'étendre l'expérimentation du médicament. Là. Et donc, c'est assez fou de donner de l'espoir à tout le monde. On a aussi l'amyotrophie spinale qui tuait les enfants à 18 mois, à 99% à peu près. Bon, maintenant, une piqûre et ils sont guéris. Enfin, ils n'auront jamais l'amyotrophie spinale. C'est assez fou.
Ah, c'est...
Et on a réussi aussi à rajouter le test au test prénatal. Donc, c'est-à-dire, quand on a trouvé que le gène était présent, ben, on traite l'enfant et puis c'est fou. Et là, l'expérimentation s'est faite dans le Grand Est, à Strasbourg et en Aquitaine, en région Aquitaine.
Ah oui, ah, mais c'est chouette. Hein. Ah, parce qu'il y a des gens qui peuvent être freinés parfois, tu sais, en pensant, on dit toujours le temps de la médecine et de la recherche, c'est pas même que le temps, faut accepter. Mais en fait, depuis que je te connais, on voit quand même, il y a une accélération dans les découvertes, dans les croisements de découvertes aussi, parce qu'une découverte va aider d'autres.
Voilà, il y a beaucoup de fausses idées. Ouais. Parce qu'on parle de maladies rares, par exemple. Mm. Mais en réalité, les maladies rares, il en reste 6 à 7 000, plus celles qu'on ne connaît pas. Mm. Elles concernent 3 millions de Français. Donc un Français sur 20 est concerné potentiellement par une maladie rare.
Plus tellement rare du coup. Oui.
Donc ça c'est déjà plus tellement rare.
Oui.
Donc le nombre de malades potentiels n'est pas rare, le nombre de maladies n'est pas rare. Et ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'effectivement les traitements qu'on trouve pour ces maladies rares sont je peux pas dire souvent, mais parfois applicables à des maladies beaucoup moins rares. J'ai dans l'idée des médicaments qui traitent de la vision, par exemple, qu'on est en train d'essayer d'appliquer à la DMLA. La DMLA, c'est la grande cause nationale. Donc, il y a des... les plus anciens se rappellent des bébés bulles. Les bébés bulles, c'était des bébés qui n'étaient protégés contre aucun microbe et rien, donc ils vivaient dans des bulles. Et les parents les touchaient avec des gants à travers un conduit en plastique, etc. En l'an 2000, on a trouvé un traitement. Et ce traitement, non seulement il a permis d'arrêter les bébés bulles, mais on l'a dérivé pour traiter la leucémie. Et il y a d'autres traitements qu'on a dérivés pour s'occuper du cœur. Le champ est très vaste.
Oui, c'est vrai. La recherche aide la recherche. Hein.
Oui, puis des trucs, des fois, ce n'est même pas les maladies. Les cellules souches, par exemple, on a réussi à créer de la peau à partir des cellules d'une personne. Donc il n'y a plus de problème de rejet, puisque ça vient de cette personne. Et créer la peau, ça a permis de traiter, par exemple, des grands brûlés. Ça, ce n'est pas une maladie, c'est une blessure. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que le Téléthon, ce n'est pas quelque chose de très pointu, très... Bon, le départ, c'était la myopathie du Duchenne. Mmh. C'est la maladie emblématique. C'est ça qui a donné naissance à l'Association contre la myopathie. Ouais. Voilà, c'était en 1958. Et le Téléthon, lui, est né en 1987 parce qu'il y avait des besoins financiers.
Et puis c'est concret, hein, parce que tu aimes bien, souvent, tu es souvent amené à rappeler l'histoire de pour tel don, deux, trois crêpes, deux, trois ballons, pour reprendre la métaphore. Ça peut être une seringue, ça peut être une aiguille, enfin, je ne sais plus comment tu dis d'habitude, mais oui. C'est concret, quoi.
Voilà, non, mais ce que j'explique toujours aux organisateurs, parce que beaucoup de gens veulent se lancer en disant moi, j'ai une idée, je vais vendre des croissants. On a un village qui vend des croissants depuis des années. Pendant deux week-ends, à peu près au moment du Téléthon. Elle me dit, ouais, mais ça va faire que 50 euros ou 100 euros, c'est ridicule. Je dis, non, c'est pas ridicule. Il y a, de toute façon, d'abord, les petits ruisseaux, les grandes rivières, c'est bien connu. Et chez nous, par exemple, si vous visitez le Généthon, hein, on ouvre les laboratoires à tous les donateurs pour qu'ils voient à quoi ça sert. Ils verront, par exemple, une cuve dans laquelle on garde les gènes de milliers de maladies. Cette cuve, elle coûte 250 000 euros. Mais dans cette cuve, il y a des milliers d'éprouvettes. Et sans ces éprouvettes, la cuve ne sert à rien. On ne peut pas mettre le sang sans le mettre des éprouvettes, etc. Une éprouvette, ça coûte 6-7 euros. Voilà. Donc, il y en a qui arrivent à payer. Très peu d'animations, mais qui arriveraient à payer la cuve. On a beaucoup d'animations qui peuvent payer quelques éprouvettes. Voilà. Et quand on visite le Généthon, partout, il y a des étiquettes avec le prix.
Oui, oui.
On voit un microscope, ça coûte 1 million d'euros.
Et ça, c'est émouvant. Ça, faut le dire aux organisateurs. Moi, ça m'a toujours touché. J'y suis allé deux fois. Ça, c'est émouvant. C'est concret. On touche la recherche. Quoi.
Et c'est aussi le grand principe de la transparence. Nous, on veut que les gens sachent à quoi sert leur effort. Voilà. On n'est pas dans notre coin. Les comptes sont clairs. Il n'y a jamais eu de problème. La Cour des comptes et Veritas sont toujours là pour que ça reste comme ça. Voilà, donc on sait où l'argent et on veut que tous les gens sachent à quoi il sert.
Parfait, et ça c'est important de le souligner. On revient après une pause musicale, juste une remarque. Pour la montée du Ventoux, je n'écoutais que Elvis et Alain Souchon. Et du coup, on va passer une Elvis. Je fais un petit truc comme ça, une petite pirouette pour Jean-Luc qui avait préparé un Goldman, mais qu'on passera aussi. Et on va passer une Elvis parce que ça rend hommage au Ventoux et à Julien, s'il est d'accord. Tu me fais signe que non? Non, ça marche. Juste un truc, n'oublions pas, parce que pour répondre à Michel aussi, la cagnotte qui avait un rapport avec le Ventoux est toujours ouverte hein, jusqu'à fin janvier. Et vous retrouvez le lien sur le Facebook Chamallow Saint-Amand ou sur le site de RCN. Et aidez-nous parce qu'on a beaucoup souffert avec Julien. Et pour l'instant, nous n'avons que 60 euros sur cette petite cagnotte. Et alors, n'hésitez pas à aller compléter. Hein, même un petit euro comme ça, de ci, de là. Et je pense que ça fera plaisir aussi à Julien qui a beaucoup aussi souffert sur les pentes. Il le dira la semaine prochaine. Tout de suite, un petit et on retrouve Michel Adam, coordinateur AFM 54.
You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise. You cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me. You're not the way you seem. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh yes you are, devil in disguise. I thought that I was in heaven, but I was sure surprised. Heaven help me, I didn't see the devil in your eyes. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are.
Vie associative sur RCN.
J'avais oublié que les roses sont roses.
Avec le clown Chamallow.
J'avais oublié que les bleus sont bleus.
Ah oui, pendant quelques semaines, j'avais dit on passera pas de d'Adamo, mais finalement, on a quand même un jingle. Donc, toi, ça t'a pas manqué, le Adamo, non? Ça va? Ça va. Il nous reste 5 minutes, chers auditeurs. On retrouve donc Michel Adam, coordinateur AFM, coordinateur 54, donc le département, pour le lancement du Téléthon. Téléthon télévisé, ça sera donc le premier week-end.
5 et 6, c'est toujours le premier week-end de décembre, sauf quand il y a le 1er décembre.
Voilà, c'est ça. Donc là, 5 et 6. Donc là, on se retrouvera. T'essaieras d'être prudent hein, pour venir dire bonjour à tous tes amis organisateurs. On est d'accord parce que ça va donc bientôt faire un an, cette histoire.
Oui, c'était le 29 novembre.
29 novembre. Ah oui, t'as pas oublié, forcément.
Bah, c'était la première fois qu'on faisait pas le deuxième trimestre. C'était à cause de Notre-Dame. À cause de l'inauguration de Notre-Dame.
Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai.
Le Téléthon a laissé avancer.
En tout cas, merci d'avoir été le premier invité de la saison. On lance très bien la saison
merci à toi.
Et du coup, tu voulais peut-être redonner sur les dernières minutes comment contacter la coordination, peut-être le site internet où les gens peuvent déjà aller voir les manifestations.
Pour contacter la coordination, vous avez une page Facebook Téléthon Meurthe-et-Moselle. Page Facebook Téléthon Meurthe-et-Moselle. Sinon, sur Google, vous tapez coordination 54 et on vous ouvrira un site aussi avec les coordonnées. Sinon, une adresse mail téléthon54, toujours, @afm-du6téléthon.fr ou le téléphone 03 83 56 99 34. Nous sommes bénévoles, donc nous ne sommes pas toujours là, mais il y a un répondeur et on rappelle.
Oui, ça c'est vrai. Ça. Contrairement à quelqu'un que tu connais bien, toi tu es assez réactif au niveau téléphone, au niveau tout. Voilà, et n'hésitez pas, chers auditeurs, parce que c'est déjà maintenant. Hein.
Ah, tout à fait, j'ai déjà signé 35 contrats et j'espère bien en signer une centaine en plus.
Et n'oublions pas, il y a un thème particulier, parce que l'angle de la jeunesse, ok, mais quel est le thème cette année?
Alors le thème c'est bougeons les lignes. C'est pour montrer qu'on bouge les lignes. Et je crois que j'ai mis sur la page Facebook que c'est pas en restant immobile qu'on bougera les lignes.
Voilà. Ah oui, ouais. Parce que j'ai resté moi sur toujours plus haut, mais ça c'était l'année dernière.
Voilà.
Ouais, c'est ça.
L'année dernière on a bâti la cathédrale. C'était il y a 2 ans, toujours plus haut.
Ouais, les années passent, hein, punaise. Voilà, c'est terrible. Un petit jingle. Donc on avait bâti des cathédrales, mais c'était une belle cathédrale, parce que je crois que c'était la collecte était pas mal l'année dernière.
Oui, tout à fait. C'était la collecte qui est exceptionnelle. C'était la meilleure depuis 2018.
Et cette année, on va faire encore mieux, j'en suis sûr, grâce à vous, chers auditeurs. Merci beaucoup, Michel Adam, pour le Téléthon. Merci à Jean-Luc à la technique. On se retrouve la semaine prochaine. On reparlera du Ventoux, on reparlera du Téléthon, puisque je recevrai deux des autres associations pour lesquelles j'ai grimpé. Donc on reparlera bien sûr du Ventoux et du coup du Téléthon. La semaine prochaine, ne ratez pas. Donc on aura France Victime 54, Raphaël Lorraine. À bientôt.
Merci à Michel. Toi et merci. Merci Arsène.
Merci beaucoup.